France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. L'onde de choc provoquée par l'annonce de nouveaux droits de douane massifs pour les partenaires commerciaux des États-Unis continue ce matin de parcourir la planète. Nous serons notamment à Bruxelles où un homme seul aura la lourde responsabilité de parler au nom des 27 et surtout de trouver le ton juste. Le président de la Corée du Sud a officiellement été destitué ce matin. Une décision, on le verra, qui fait la joie des pro-démocraties. On se rendra à Séoul. Avec notre invité aujourd'hui, le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, on parlera de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie dans un contexte toujours troublé. Enfin, on tâchera de décrypter l'annulation hier par la justice du projet de parc éolien terrestre le plus puissant de France. Ce matin encore, le monde reste donc traversé par un vent de panique après l'imposition par Donald Trump de nouveaux droits de douane punitifs qui, à l'exception notable de la Corée du Nord, Cuba ou la Russie, concernent tous les pays, des partenaires économiques majeurs, mais aussi parfois des territoires reculés, presque des confettis sans économie ni population. Alors ce n'est pas le cas en l'occurrence du Lesotho, même si le petit royaume montagneux d'Afrique australe avait récemment été qualifié par le président américain lui-même de pays dont personne n'a jamais entendu parler. Paradoxalement, c'est même là que s'appliqueront les droits de douane les plus élevés décidés par Washington, 50% au point de sérieusement menacer son industrie textile. De son côté, Madagascar écope du second taux le plus élevé, fixé par l'administration trumpienne, avec 47%, de quoi forcément inquiéter plusieurs secteurs stratégiques de la grande île de l'océan Indien, dont l'économie repose aujourd'hui en immense partie sur les exportations, justement vers les États-Unis, à commencer par la filière vanilliste. Une correspondance à Antananarive, signée Sarah Teto.
Les États-Unis sont la première destination d'export des produits malgaches. Après le nickel, vient immédiatement la précieuse gousse noire. Chez les exportateurs de l'épice, l'annonce a provoqué un véritable choc et un certain écœurement, confie Georges Gerhardts, le président du groupement des exportateurs de vanille.
Il apparaît que ces nouvelles taxations sont basées sur le taux d'asymétrie des échanges. Et ce sera donc toujours en défaveur des pays pauvres qui exportent des matières premières. Dans le cas de Madagascar, qui exporte 70% de sa vanille à destination des États-Unis et qui va devoir faire face à une taxation plus avantageuse d'autres pays producteurs, à l'exemple de l'Ouganda qui ne serait taxé qu'à hauteur de 10%, ça représente des soucis importants.
Des soucis importants de concurrence, évidemment, comme dans l'industrie textile où plusieurs gros acheteurs américains ont déjà fait savoir qu'ils allaient devoir se réorienter vers l'Éthiopie, le Kenya ou le Bangladesh, bien moins taxés. Un cataclysme pour le secteur qui exporte aujourd'hui 40% de sa production vers les États-Unis et qui emploie plus de 60 000 personnes. Et la GOA, l'accord de libre-échange qui offre une exemption de droits de douane sur certains produits malgaches, ne semble plus d'aucune protection.
Face à cette situation, les exportateurs de vanille et les autres exportateurs des filières touchées se serrent les coudes et attendent de la part du gouvernement des négociations qui vont infléchir la décision des États-Unis.
Une réunion de crise a eu lieu hier entre l'ambassadrice des États-Unis et plusieurs ministres. Objectif, clarifier au plus vite la situation et démarrer les négociations bilatérales pour limiter la casse.
Et toujours parmi les conséquences de cette nouvelle offensive douanière de Washington, une question se pose ici en Europe. L'isolationnisme américain peut-il constituer une opportunité au même titre que le rapprochement entre Washington et Moscou a relancé par exemple le débat sur la nécessité d'une défense européenne. Quoi qu'il en soit, le vieux continent se retrouve désormais soumis à une sorte de test de résistance. Pour cela, les 27 vont devoir présenter un front uni, même si en coulisses les divisions demeurent. Et celui qui a hérité de cette mission quasi impossible, négocier avec l'administration Trump pour éviter à l'UE une guerre commerciale avec les États-Unis, se nomme Maroš Šefčovič. Fabien Cazot, bonjour.
Bonjour.
En direct de Bruxelles, à 58 ans, le commissaire européen slovaque, aussi discret qu'expérimenté, va devoir échanger aujourd'hui, Fabien, avec ses homologues américains.
Oui, cela fait 15 ans qu'il est commissaire européen. C'est dire à quel point il est familier des grandes négociations internationales. Il semble très légitime ici à Bruxelles pour porter la voix des Européens auprès des Américains.
Nous sommes de fervents partisans du libre-échange, donc cela nous inquiète de voir s'ériger de nouveaux murs tarifaires. Nous préférons de loin des solutions négociées, mais nous sommes bien sûr prêts à prendre des mesures si nécessaire pour défendre fermement nos intérêts économiques.
Maroš Šefčovič est vraiment une des chevilles ouvrières de cette ligne élaborée par la Commission européenne face à Donald Trump ces derniers mois. Ouverture et fermeté, c'est aussi lui qui en coulisses pousse l'Union à diversifier ses débouchés commerciaux. Inde, Asie du Sud-Est, Mexique, mais aussi l'accord avec le Mercosur dont le commissaire slovaque est un fervent défenseur.
Merci Fabien Cazot, en direct de Bruxelles.
Un nouvel avis de tempête s'agissant cette fois-ci des relations entre Washington et Kiev.
Dans une nouvelle offre à l'Ukraine, les États-Unis réclament désormais un accès prioritaire aux métaux, au pétrole, au gaz du pays, mais aussi à ses raffineries, ses terminaux et autres oléoducs. Autant dire qu'il s'agit là d'une modification substantielle des termes de l'accord préalablement discuté, ou quand Volodymyr Zelensky a beau manœuvrer pour éviter les écueils, il s'en trouve chaque fois de nouveau. En attendant, les chefs d'état-major militaires français et britanniques sont attendus à Kiev aujourd'hui pour discuter des garanties de sécurité pour l'Ukraine en cas de cessez-le-feu. À l'heure où les humiliations et les gifles infligées par Donald Trump au reste du monde résonnent comme autant de signaux d'alarme, Benjamin Netanyahou peut lui toujours compter sur le soutien du président américain. Il devrait être de retour à Washington la semaine prochaine, et pendant ce temps les Gazaouis vivent eux toujours en état de guerre permanent. Hier, les attaques de l'armée israélienne sur l'enclave palestinienne auraient fait, selon le ministère de la Santé du Hamas, plus de 100 morts en seulement 24 heures, soit le jour le plus meurtrier depuis que l'État hébreu a rompu unilatéralement le cessez-le-feu le 18 mars dernier. Quand Donald Trump décidément dicte l'actualité partout et surtout hors de ses frontières, hier le milliardaire républicain a apporté son soutien à Marine Le Pen après sa peine d'inéligibilité. Tout en dénonçant une chasse aux sorcières, le locataire de la Maison Blanche a notamment vanté les mérites de la chef de file des députés d'extrême droite qu'il ne connaît pas par ailleurs. Un soutien Antoine Maret plutôt embarrassant en réalité pour celle qui veut maintenir coûte que coûte sa candidature à la prochaine présidentielle.
L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro, le premier ministre hongrois Viktor Orban, le vice-premier ministre italien Matteo Salvini, le patron de l'extrême droite des Pays-Bas Geert Wilders, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov et maintenant le président américain. Les grandes figures du nationalisme mondial se lèvent comme un seul homme pour prendre la défense de Marine Le Pen. Un soutien parfois embarrassant pour la chef de file des députés RN, en particulier quand il vient de Donald Trump, avec qui elle a pris ses distances en 2021 après l'attaque du Capitole. Donald Trump qui vient d'imposer des droits de douane très lourds à la France, dont l'électorat RN notamment pourrait payer un lourd tribut. Donald Trump dont la radicalité et le style ont pu effaroucher les cadres du Rassemblement national en quête de respectabilité. Au sein du parti à la flamme, on ne se bouscule pas pour commenter cet appel du président américain à la libération de Marine Le Pen. « On ne lui a rien demandé », affirme l'un des responsables du RN. « Tout se passe comme si, au Rassemblement national, on n'avait pas encore totalement tourné le dos à la stratégie de la cravate, une stratégie peu compatible avec le soutien de Donald Trump, aussi puissant soit-il. »
Entre scandales familiaux et débâcles électorales, l'ex-procureur vedette propulsé président, bien que novice en politique, avait fini par sombrer dans l'impopularité jusqu'à se risquer en septembre dernier à un ultime coup de force qui lui aura coûté son titre ce matin. Dans un arrêt accablant, la Cour constitutionnelle de Corée du Sud a confirmé à l'unanimité la destitution du dirigeant Yoon Suk-yeol, coupable d'avoir violé les principes fondamentaux de l'état de droit. Une décision qui non seulement signifie le départ immédiat du pouvoir du chef de l'État, qui n'était jusqu'à présent que suspendu, mais entraînera de facto une élection présidentielle anticipée sous 60 jours. Notre correspondante à Séoul, Camille Ruiz, s'est rendue ce matin au cœur de la capitale, sur la place principale, auprès des manifestants pro-démocratie, lesquels ont explosé de joie à l'annonce de la décision.
Des cris, des applaudissements et même une fanfare. Certains manifestants se sont effondrés en pleurs de joie, d'autres se sont pris dans les bras. Derrière ses lunettes de soleil, Chob Yono, 56 ans, essuie une larme discrète.
Je suis venu ici plein d'espoir et j'ai été tellement touché que j'ai un peu pleuré. Je suis ravi et très soulagé. C'était une décision évidente et elle a sauvé notre pays de la crise.
Lee Eun-so, 25 ans, a déjà prévu de fêter la nouvelle.
Je vais aller manger avec mes amis dans un bon restaurant. Nous nous sommes beaucoup mobilisés, alors nous allons en parler et se féliciter de nos efforts.
Le soulagement se lit sur beaucoup de visages. Anne Nyang, 57 ans, a du mal à contenir sa joie.
J'ai du mal à réaliser. Je suis vraiment très heureuse. Enfin, nous pouvons retrouver nos vies d'avant et continuer à vivre en démocratie.
La comédienne pense déjà à l'élection présidentielle qui doit se tenir dans les deux prochains mois.
DJ Myung est le seul à se soucier vraiment des gens. Il fait vraiment bien son travail. Ça doit être lui.
Le rival de Yoon Suk-yeol par grand favori. La date exacte de l'élection doit être annoncée dans les 10 prochains jours.
Un reportage à Séoul signé Camille Ruiz. Et je précise, s'agissant toujours de l'avenir de Yoon Suk-yeol, qu'il est également sous le coup d'un procès pénal pour insurrection, un crime passible de la peine de mort.
Midi passé de 40 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Il aurait dû être le parc terrestre le plus puissant de France, avec 63 éoliennes. Or, hier, une décision de justice est venue mettre à terre ce projet de site dans les Ardennes, plus exactement au Mont des Quatre Faux. Et forcément, à l'heure où il faudrait au contraire accélérer le développement des énergies renouvelables, c'est un coup dur pour le secteur. Diane Berger, bonjour.
Bonjour.
Hier, la Cour administrative d'appel de Nancy a donc annulé les arrêts du préfet autorisant l'exploitation des éoliennes, et ce, Diane, au nom de leur impact visuel.
63 éoliennes hautes de 200 mètres, c'était trop, selon la Cour. Ni le relief, ni la végétation, ni d'éventuelles mesures supplémentaires n'auraient permis de les cacher, avec donc un effet de saturation dans le paysage. Une petite victoire pour l'association et les riverains qui en avaient demandé l'annulation. Le Conseil d'État peut encore être saisi, mais c'est en tout cas un coup majeur contre ce grand projet du Mont des Quatre Faux, né en 2007, il y a quasiment 20 ans, sachant qu'il faut en moyenne 10 ans pour créer un parc éolien terrestre. Son arrêt questionne donc sur la taille idéale des exploitations. Antoine Guilleux, secrétaire général de l'Association des professionnels du secteur France Renouvelable.
Les injonctions politiques à cet égard ont évolué dans un sens puis dans un autre. Et on se retrouve aujourd'hui devant des juridictions qui jugent, selon les cas, qu'un trop faible nombre d'éoliennes est un facteur de mitage dans le territoire, donc ne participe pas à leur intégration. Et vous avez le pendant inverse ici avec cette décision rendue par la Cour administrative d'appel de Nancy qui tente à dire trop d'éoliennes au même endroit, ce n'est pas acceptable non plus.
Une difficulté alors qu'il faut accélérer le développement du renouvelable en France. Le pays est censé doubler ses capacités de production en éolien terrestre d'ici 2035. Antoine Guilleux appelle donc aussi à une transition de nos regards sur les énergies, autrement dit accepter l'irruption des éoliennes dans les paysages français.
Merci Diane Berger.
De retour de Nouvelle-Calédonie, le ministre des Outre-mer espère aboutir à un accord global sur l'avenir institutionnel de l'archipel.
Pour Manuel Valls, l'objectif est de retrouver de la stabilité indispensable pour restaurer une économie à terre, sans compter les risques toujours bien réels d'explosion à la fois politique et sociale. Il le dit à Stéphane Robert, Manuel Valls, invité aujourd'hui de la rédaction.
Bonjour Manuel Valls.
Bonjour.
Ministre d'État, ministre des Outre-mer, vous revenez d'un déplacement de 4 jours en Nouvelle-Calédonie. Après un premier déplacement sur place, il y a tout juste un mois qui avait duré plus d'une semaine, 8 jours exactement. Vous y retournez dans un mois, fin avril, pour entamer des négociations sur l'avenir institutionnel de l'archipel. Et juste avant de partir de Nouméa, vous avez parlé d'un pas décisif. Est-on tout proche d'un accord durable entre indépendantistes, non-indépendantistes et l'État français?
Je suis prudent, parce que je connais trop bien la Nouvelle-Calédonie, la situation économique, sociale, politique. Les fractures sont profondes pour céder à la naïveté. Je sais que les positions des uns et des autres, entre indépendantistes et anti-indépendantistes ou loyalistes, sont encore très éloignées. Mais je crois et j'espère surtout qu'il y a une prise de conscience de chacun sur le fait qu'un accord est indispensable pour stabiliser la situation de la Nouvelle-Calédonie, qui voit son économie à terre, des gens partir, une augmentation du niveau du chômage, beaucoup d'entreprises, de centres commerciaux qui ont été détruits, une grande détresse sociale, la situation aujourd'hui de plus en plus difficile dans le domaine du logement, le nombre de SDF qui a augmenté notamment dans le Grand Nouméa, et surtout un système de santé qui risque l'implosion, car il y a beaucoup de médecins, d'infirmiers, d'aides-soignants qui sont partis. Il y a des zones, je pense notamment au nord ou aux îles du territoire, qui sont aujourd'hui sans médecin, donc avec des risques vitaux pour beaucoup de monde. Donc face à cela, la responsabilité des élus, des partenaires politiques, c'est de trouver un accord pour stabiliser, pour permettre les investissements et pour travailler tout simplement à l'avenir et aussi, pardon, à la réconciliation après ce qui s'est passé en mai 2024.
Il n'y avait plus de discussion officielle entre indépendantistes, non-indépendantistes et l'État français depuis près de 4 ans. Comment fait-on dans ce contexte pour ramener tout le monde autour de la table?
Bon, il y avait heureusement les élus qui siègent au Congrès ou dans les provinces ou dans les communes se parlent. Pas caricaturer non plus la situation, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas eu de réunion à Nouméa où tout le monde se parle de nouveau. Et c'est important, vous savez, nous sommes des êtres humains, l'altérité est évidemment essentielle pour se comprendre, pour avancer. Et je veux d'ailleurs saluer la responsabilité des uns et des autres. Nous avons réussi à ce que tout le monde se parle, avance dans des discussions qui maintenant passent au stade des négociations pour aboutir à un texte, un accord qui demain, je l'espère, devra être approuvé par les Calédoniens, mais aussi par le Parlement français.
Vous avez mis un projet sur la table, un projet d'accord, mais vous n'avez pas souhaité le rendre public. Est-ce que la discrétion, l'opacité même, fait partie de la méthode? Est-ce que c'est nécessaire pour réussir?
J'ai appris ça de Michel Rocard, dont j'étais le collaborateur il y a très longtemps. C'est ça, la méthode Rocard. Oui, parce qu'il faut de la discrétion, du secret. Parce que si tout est sur la place publique, eh bien, on ne peut pas avancer. Alors, j'ai rencontré beaucoup de Calédoniens. J'ai tenu à avoir 150 représentants de la société civile très diverse, aller à rencontre de lycéens dans une cérémonie magnifique au lycée La Pérouse, avec ce mélange de couleurs et d'origine et avec la volonté de construire une société en commun, un peuple calédonien, une citoyenneté calédonienne. Je me suis rendu sur le marché, alors je ne peux pas dire que j'ai une vision générale de ce que pensent tous les Calédoniens. Mais il y a une attente très forte. Ils nous demandent sur quoi nous allons bâtir cet accord. Donc j'essaie de les rassurer. Mais je pense qu'en effet, une méthode basé sur la confiance, donc sur la discrétion, permettra d'avancer. Et je ne vais pas rester inerte là, dans les jours qui viennent, puisque moi-même, mes collaborateurs, le conseiller spécial du Premier ministre Éric Thiers qui m'accompagnait dans ce déplacement, nous allons poursuivre les discussions par visioconférence, directement, indirectement, avec des bilatérales, des plénières, par bout de texte, pour avancer. Il faut une méthode pour empêcher le retour de la violence, une forme de guerre civile en Nouvelle-Calédonie. Il faut mettre tous les outils à la disposition pour permettre la réalisation d'un accord que j'espère, pas pour moi, mais pour la Calédonie et pour le lien très fort qui existe entre ce territoire et l'Hexagone.
Vous avez parlé du contexte, les émeutes qui ont secoué l'archipel au printemps dernier, qui ont fait 13 morts, plus de 2 milliards d'euros de dégâts, et puis surtout une méfiance, une défiance entre les communautés qu'on n'avait pas connue depuis les années 80. Est-ce que les choses se sont malgré tout apaisées, ou est-ce que les stigmates de ce qui s'est passé, les tensions, sont-elles toujours présentes?
Ces tensions sont toujours présentes, c'est extrêmement fragile. La braise couve, il y a une augmentation de la violence, de la délinquance, des agressions, une situation qui reste extrêmement difficile. Moi, à chaque fois, j'ai rappelé quelles étaient mes missions. D'abord, assurer la sécurité de tous les Calédoniens. Il y a 20 escadrons de gendarmerie mobile, plus les policiers, plus des unités d'élite du GIGN et du RAID qui sont sur place. Il faut protéger, il faut empêcher évidemment que la violence ne l'emporte. Le soutien évidemment aux institutions calédoniennes et à l'économie. Donc l'État est là par des subventions directes, 200 millions pour la reconstruction des établissements publics, un prêt de 1 milliard d'euros garanti par l'État, un prêt de l'AFD, l'Agence française de développement. Donc sur tous ces sujets-là, nous sommes aux côtés des Calédoniens, mais je sais que pour demain reconstruire la confiance, et ça ne se fera pas en quelques jours, parce qu'au fond, c'est ça qui m'a frappé. C'est ça qui est triste d'une certaine manière. C'est qu'il y a une forme de régression. Là où on pensait que les accords de Nouméa de 1998 permettraient de faire un peuple calédonien, on se rend compte que c'est en effet beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile. Donc pour cela, il faut de l'apaisement et du dialogue et le retour de la confiance.
Le contexte international et le grand bouleversement mondial initié par Donald Trump a-t-il un effet sur les discussions en cours que vous menez?
Oui, d'une certaine manière, parce que chacun se rend bien compte que le monde dans lequel nous avons bâti les accords de 88 et de 98 pour la Nouvelle-Calédonie n'a rien à voir avec ce qui est en train de se passer. Le Pacifique, c'est cet océan, cet espace, cette région où on verra, où on voit déjà l'affrontement entre les États-Unis et la Chine. Et la France est présente à Wallis et Futuna, en Polynésie française, bien sûr, et en Nouvelle-Calédonie. Il y a des intérêts stratégiques. Je pense au nickel, qui est pour moi l'une des priorités. Je pense qu'il y a des possibilités de reconstruire cette filière et les usines. C'est important pour tout le monde. C'est important pour la Nouvelle-Calédonie. C'est important aussi pour la France et pour l'Europe, au moment où nous avons besoin de ces minerais pour gagner en autonomie stratégique dans toute une série de secteurs industriels. Je pense bien sûr aux batteries. Bon, donc, dans ce monde, la Nouvelle-Calédonie, le lien entre la Calédonie et l'Hexagone et Paris est important. Je crois que chacun le comprend. Personne, d'ailleurs, quelle que soit sa position, n'envisage l'avenir sans ce lien avec la France.
Manuel Valls, ministre d'État, ministre des Outre-mer, merci d'avoir été l'invité de France Culture.
Merci à vous.
Et merci également à vous Stéphane Robert. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi couvert sur le sud-ouest ainsi que le golfe du Lion ensoleillé partout ailleurs. Quant aux températures, elles seront comprises entre 16 et 23 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Brice Garcia et à 18h, vous avez rendez-vous avec Nicolas Ballu pour le prochain journal de la rédaction.